Il est précisément 7 heures. Félix-Antoine Parent, bonjour.
Bonjour, Anne.
On prend la relève du collègue ce matin. Mm-hmm. Félix-Antoine, deux institutions d'envergure s'allient pour promouvoir l'art autochtone.
L'art et les artistes autochtones seront soutenus et mis en lumière grâce à une entente entre le Musée des beaux-arts du Canada et la Galerie d'art d'Ottawa. Ce partenariat vise à mettre à l'avant-plan et à faire rayonner le travail de nombreux artistes souvent méconnus du public. Les deux organisations travailleront ensemble pour mettre en place des initiatives et des projets communs et pour promouvoir l'art et les artistes autochtones. Pour l'artiste Émilie Bracoupé-Hoffler, membre de la communauté de Kitigan-Zibi, il s'agit d'une décision qui aura un impact important pour les prochaines générations d'artistes autochtones.
Pour les enfants ne provenant pas de familles d'artistes ou pour ceux dont la forme d'art n'était pas considérée comme de l'art, mais plutôt de l'artisanat. Maintenant, on sent vraiment que c'est possible et qu'il y a plusieurs façons de faire de l'art. Alors oui, j'espère que nous verrons de nombreux artistes émerger au cours des 7 prochaines générations.
Ce dernier estime que l'art et la culture autochtone sont de plus en plus présents dans les espaces publics. Pour sa part, le directeur général du Conseil tribal de la Nation algonquine, Norm Ojik, est d'avis qu'il y a toujours place à l'amélioration.
Par exemple, à Vancouver, direct dans l'aéroport, tu vois l'art de le côté ouest, qui est vraiment belle, par exemple, mais comme il y en a des statues, il y en a des peintures, puis tout ça, mais en Ottawa, ou d'ailleurs, c'est plus rare.
Il espère aussi que des vérifications seront faites afin de s'assurer que ce partenariat bénéficie à de vrais membres des Premières Nations. Le voici qui explique sa pensée.
Je veux que c'est vraiment des vrais Autochtones qui sont là, puis il y en a beaucoup de personnes qui auto-déclarent qu'ils sont Autochtones, qui prennent la place puis les opportunités des autres. Et j'espère que ça va être fait dans la bonne façon que faire les vérifications.
Le Musée des beaux-arts du Canada présente jusqu'au 30 septembre l'exposition « Perler radicalement », réunissant les œuvres de 44 artistes des Premières Nations, Inuits et Métis, de partout au Canada et aux États-Unis.
Maintenant, des discussions ont lieu avec Lac Barrière afin d'avoir accès à la ressource forestière.
Les compagnies forestières de la région éprouvent certaines difficultés d'approvisionnement. Cette problématique avait d'ailleurs contraint la mise en arrêt temporaire des activités de l'usine de produits forestiers résolus à Maniwaki en avril. Plusieurs acteurs de l'industrie s'accordent pour dire qu'il y a plusieurs causes à cette situation. L'une d'entre elles est la décision de Lac Barrière d'empêcher l'exploitation de la ressource sur son territoire. Le chef du conseil de bande de Lac Barrière, Casey Ratt, explique que cette décision a été prise à des fins de conservation de l'environnement.
Nous avons décidé qu'il ne devrait plus avoir d'exploitation forestière sur notre territoire puisque depuis les années 80, cela a complètement transformé l'habitat des membres de notre communauté à un tel point qu'on peine à reconnaître la forêt aujourd'hui. Présentement, nous sommes en attente d'une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Le chef de Lac Barrière précise que des discussions sont en cours afin d'arriver à une solution convenable pour tous. Ce dernier mentionne que c'est également une occasion pour l'industrie forestière de faire évoluer son modèle économique.
Il est également nécessaire d'arriver à un accord sur une méthode durable d'exploitation forestière qui sera à l'avantage des entreprises. Je crois qu'il est venu le temps de trouver un modèle qui serait moins dommageable pour la biodiversité qui peuple nos forêts.
It really does not affect the diversity of wood that's in the forest.
La communauté de Lac Barrière communique étroitement avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec dans ce dossier.
Parlons de la disparition de Tyrone Aaron Cole, des recherches infructueuses jusqu'à présent.
La Sûreté du Québec poursuit son enquête dans le dossier de la disparition de Tyrone Aaron Cole de Maniwaki. Les recherches menées mercredi dernier par les policiers n'ont pas permis de faire progresser le dossier. Le porte-parole à la Sûreté du Québec, Marc Tessier, revient sur l'opération de la semaine dernière.
On a des patrouilleurs qui ont sillonné la rivière. On avait des gens en VTT ainsi que des marcheurs là, pour faire certaines vérifications dans des boisés près où la résidence où il demeurait la dernière fois qu'il avait été vu. Malheureusement, on n'a pas eu d'indice où il n'a pas été localisé.
La Sûreté du Québec demande toujours au public de garder l'œil ouvert afin de retrouver l'homme de 42 ans.
Vérifier leur dépendance, leur terrain, leur cours d'eau. C'est toujours en vigueur, donc on demande aux gens d'être vigilants. Même les promeneurs vont faire des randonnées ou je sais pas, dans le secteur de bien vouloir garder l'œil ouvert. Tout indice, morceau de vêtement qui appartient pas à personne, un campement de fortune qui aurait été fait. Tout indice, peu importe que ce soit banal ou pas, de nous appeler. On va faire, nous, les vérifications nécessaires par la suite.
Tyrone Aaron Coyle a été vu pour la dernière fois, on le rappelle, le 9 juin sur la rue Notre-Dame à Maniwaki. Il mesure 5 pieds 7 pouces, pèse 165 livres et a les cheveux courts et bruns et a les yeux bleus. Toute personne qui apercevrait Tyrone Aaron Coyle est priée de communiquer avec le 911.
Bien, merci à toi d'être là ce matin. On va bien sûr se retrouver à 7h30 pour les manchettes du bulletin de 8h.
Je vais y être sans faute.
À tantôt. Bye bye.